Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Thierry Dagiral, votre grand journal du soir. La suite du programme, Thierry.
À 19h20, le monde d'après. On réfléchit ensemble à ce monde d'après Covid, un monde tout vert. Mais est-ce durable? Edgar Morin sera mon invité. 19h30, tube d'été. Angèle Châtelier va nous replonger dans ces tubes qu'on va garder en tête tout le week-end. Enfin, 19h40, jusqu'à 20h, on part en balade douce France. Balade dans nos régions. Nous serons ce soir à Annecy, en Haute-Savoie. Europe 1, tout l'été, avec plaisir, bien sûr, à vos côtés.
Votre grand journal du soir, Sébastien Krebs, Thierry Dagiral. Belle fin de journée, il est 19h.
C'est totalement insuffisant, il faut faire beaucoup plus pour lutter contre la pollution de l'air.
Le Conseil d'État met la France sous astreinte. Le gouvernement a 6 mois pour prendre des mesures contre la pollution, sous peine de devoir payer 10 millions d'euros par semestre, c'est du jamais vu.
Les Français sur les routes et dans les trains au week-end de grand départ, y compris vers la Grande-Bretagne où la quatorzaine obligatoire est supprimée.
Le gouvernement en conclave ce week-end, séminaire entre nouveaux ministres.
Alors que ce remaniement continue d'alimenter la colère des féministes qui manifestent à nouveau ce soir.
Enfin, le débat mémoriel jusque dans les jeux de société. Le Scrabble fait le ménage des mots jugés racistes vont être supprimés du dictionnaire officiel.
La tendance météo, Anissa.
Ça s'arrange demain après une journée vraiment mitigée à cause de cette perturbation qui a traversé le pays. Demain, c'est le retour de l'anticyclone avec du soleil au programme tout le week-end. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Thierry Dagiral et Sébastien Krebs.
Et d'abord, on vient de l'apprendre ce soir, le chauffeur de bus très violemment agressé à Bayonne dimanche dernier est décédé à l'hôpital. Stéphane Place, vous êtes notre correspondant dans la région. C'est sa famille qui l'annonce.
Oui, et c'est malheureusement une annonce qui était redoutée compte tenu de l'état critique dans lequel se trouvait ce chauffeur de bus roué de coups, vous le rappeliez, dimanche dernier, et transporté au centre hospitalier en état de mort cérébrale. C'est l'une des 3 filles de Philippe Monguillot qui a annoncé le décès de son papa en fin d'après-midi. Sa maman, Véronique, l'épouse de la victime, a quant à elle précisé sur les réseaux sociaux que son mari s'est éteint à 17h30. « Nous avons décidé de le laisser partir », a-t-elle souligné. Évidemment, vous vous souvenez que cette mère de famille et ses 3 filles avaient pris la tête de la Marche Blanche qui a réuni dans le centre de Bayonne 6000 personnes mercredi soir. Les collègues de ce chauffeur de bus qui avaient exercé leur droit de retrait ont décidé de reprendre le travail, eux, lundi soir, après avoir signé aujourd'hui un accord prévoyant des conditions de sécurité renforcées. 4 personnes ont été mises en examen après cette agression et ont été écrouées. Et il y a quelques instants, le procureur de Bayonne indique qu'ils vont prendre des réquisitions de mise en examen supplétives à l'encontre des 2 suspects pour homicide volontaire sur un agent de réseau de transport public. Ça, c'est la précision du parquet. Et enfin, le ministre de l'Intérieur se rendra demain à Bayonne pour faire un point sur la sécurité dans la ville et rencontrer les syndicats des transports publics.
Stéphane Place en direct, notre correspondant Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine.
C'est un ultimatum inédit que le Conseil d'État a prononcé. La France a 6 mois pour agir et réduire la pollution dans plusieurs villes, Sébastien.
Et cela sous peine d'une astreinte record. 10 millions d'euros par semestre de retard. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
C'est du jamais vu et cela concerne les plus grandes agglomérations de France.
Oui, à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse ou encore Strasbourg. Toutes ces régions où le Conseil d'État a estimé que les efforts n'ont pas été suffisants. L'État a eu 3 ans pour réduire la pollution de l'air dans ces 8 zones. Cela n'a pas été le cas. Sanctions, donc, il y a urgence. Selon le Conseil d'État, la pollution de l'air, c'est 50 000 morts par an. L'association Respire fait partie des ONG qui avaient saisi le Conseil d'État. Son président, Olivier Blond, salue aujourd'hui une décision qui pourrait enfin marquer un vrai tournant dans la politique environnementale.
Ça fait des années qu'on demande des actions. Ça fait des années que le gouvernement dit qu'il fait des choses, mais en fait, c'est tout à fait insuffisant. Vraiment, la question qui est derrière cette décision du Conseil d'État, c'est comment diminuer la part du véhicule diesel dans les centres-villes. Et là, le Conseil d'État tape un petit peu du poing sur la table, mais comme l'avait fait avant la Cour de justice de l'Union européenne, en disant non, c'est totalement insuffisant, il faut faire beaucoup plus pour lutter contre la pollution de l'air.
C'est une double condamnation. À présent, les associations attendent la réaction de la nouvelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui a donc 6 mois pour convaincre le Conseil d'État.
Pauline Jacquot, merci. En cette veille du week-end du 14 juillet, les voitures sont très nombreuses sur les routes, plus que d'habitude, les Français partant majoritairement en France.
Les routes d'Île-de-France sont dans le rouge ce soir. Demain, ce sera le cas également dans toute la France et du monde aussi, dans les gares, y compris pour traverser la Manche, car les frontières britanniques s'ouvrent plus librement. Fini la quatorzaine rendue obligatoire. Cela va permettre à beaucoup de familles de se retrouver. Reportage au départ de l'Eurostar, Johanna Chabas.
Ça fait plaisir, parce que si c'est pour y aller, pour rester dans l'appart, c'est un peu compliqué encore.
Priya va enfin pouvoir retrouver son amoureux de l'autre côté de la Manche. Elle travaille en France et avant aujourd'hui, aller à Londres le temps d'un week-end était impossible. Priya était trop inquiète à l'idée de rester coincée 14 jours.
J'avais aussi peur qu'on m'arrête en fait en revenant, parce que si j'y vais pour un week-end et que je suis censée respecter une quatorzaine, donc je ne suis pas en train de le faire, en revenant, j'aurais pu avoir des problèmes à la frontière.
Elle avait pris son billet longtemps à l'avance, mais avec la possibilité de l'annuler si la quatorzaine était maintenue. Une option mise en place par Eurostar pour attirer les clients. Eurostar qui a aussi rajouté des trains, 4 par jour au lieu d'un. Anne travaille à Bristol. Elle a sauté sur l'occasion pour quitter l'Angleterre et passer ses vacances avec sa famille française.
Quand je regardais les billets, c'était complet assez rapidement, puis ça revenait. Les billets étaient extrêmement chers. Ça, pour le coup, c'est assez flagrant.
Dans les trains, le masque et les distances de sécurité entre les voyageurs reste obligatoire. Plus de 14 donc, mais encore des précautions sanitaires drastiques.
Johanna Chabas, Gare du Nord, à Paris.
Accord validé au Ségur de la Santé, la majorité des syndicats sont prêts à signer.
Et trois organisations, la CFDT, FO et l'UNSA, vont signer l'accord à E3, ces trois syndicats pèsent plus de 50% des voix dans la fonction publique hospitalière. Ça veut dire que l'accord devient majoritaire. Il prévoit les 180 euros d'augmentation pour les agents hospitaliers en dehors des médecins et 15 000 embauches. En revanche, six autres syndicats, dont la CGT et Sud Santé, rejettent cet accord et appellent à manifester le 14 juillet. Le gouvernement, lui, se réunira demain pour un séminaire entre nouveaux ministres autour de Jean Castex, le Premier ministre qui continue de s'afficher tous les jours au travail, Jean-Rémy Baudeau.
Oui Sébastien, un week-end de travail pour le nouveau gouvernement et effectivement pour Jean Castex, demain à 8h45, réception des ministres dans les bureaux de l'avenue de Ségur, séminaire gouvernemental, tradition instituée depuis le début du quinquennat où les ministres se voient présenter les grandes lignes de ces prochaines semaines, histoire que tout le monde accorde ses violons. Il sera notamment question du Ségur de la Santé dont vous parliez à l'instant, de la loi bioéthique, les discussions sur la réforme des retraites, mais selon nos informations, Jean Castex devrait aussi officialiser la hausse du nombre de collaborateurs dans les ministères. Emmanuel Macron avait voulu réduire ce chiffre à 10 pour réduire les coûts et gagner en efficacité. En réalité, c'était pas très pratique, ça ne marchait pas bien. Les ministres vont pouvoir disposer de 15 collaborateurs à plein temps. Mais le week-end ne sera pas terminé pour Jean Castex. Il s'envolera ensuite pour la Guyane, visite éclair dans un territoire lourdement touché par l'épidémie de Covid. On peut parier que lors de ses longues heures d'avion, Jean Castex va plancher à sa déclaration de politique générale. Il la prononcera mercredi devant le Parlement. C'est là qu'on connaîtra officiellement les objectifs politiques de son gouvernement, à moins qu'Emmanuel Macron ait déjà tout dit mardi lors de sa propre intervention du 14 juillet.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Et demain, c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire, sauf justement en Guyane et à Mayotte.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Thierry Dagiral.
Et le nouveau gouvernement qui est toujours contesté par les militantes féministes, elle manifeste ce soir dans plusieurs villes. Nous allons à Lille dans la suite de votre journal de 19h.
Et puis le débat mémoriel jusque dans les jeux de société. Le Scrabble fait le ménage dans des mots jugés racistes.
Europe 1.
Sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Thierry Dagiral.
Et la composition du nouveau gouvernement ne passe toujours pas au sein du mouvement féministe. De nouvelles manifs ont lieu ce soir, Sébastien.
Dans plusieurs villes de France, avec toujours dans le viseur Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, l'un visé par une enquête pour viol, l'autre pointé pour ses positions jugées hostiles au mouvement MeToo. Maximilien Carlier, vous êtes sur la Grand Place à Lille et c'est une petite foule qui s'est massée ce soir.
Oui, effectivement, Sébastien, un rassemblement dans le calme statique, juste devant le Théâtre du Nord. Des prises de parole en ce moment. Il y a une centaine de militantes, toutes habillées en noir de la tête aux pieds.
Aujourd'hui, on est en deuil. On a enterré la grande cause du quinquennat, à savoir l'égalité femmes-hommes.
Betty vient de Valenciennes. Elle tient une pancarte où il est écrit « Remaniement de la honte ». Elle en veut au chef de l'État.
On est en colère. On est en colère de ce qui est en train de se passer et du mauvais signal qui nous est envoyé par le président de la République. On a un ministre de l'Intérieur qui est sous le coup d'une enquête pour viol et un ministre de la Justice qui est certes avocat, donc bien à sa place, sauf qu'il a tenu énormément de propos misogynes et on s'inquiète de la politique qui va être prise en matière d'égalité homme-femme et de violence.
Et ces militantes appellent aussi au déblocage d'1 milliard d'euros pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
Maximilien Carlier à Lille pour Europe 1. Une autre manifestation a lieu ce soir à Paris devant l'hôtel de ville. L'actualité judiciaire avec cette nouvelle expertise médicale demandée dans l'affaire Adama Traoré, ce jeune homme décédé après son interpellation par des gendarmes en 2016. En pleine bataille d'experts, ce sont cette fois des médecins belges qui sont saisis du dossier.
Aux États-Unis, les débats mémoriels continuent depuis la mobilisation autour de la mort de George Floyd et après les statues déboulonnées. C'est le monde du jeu de société qui se remet en question maintenant.
Un jeu en particulier, le Scrabble, avec cette question. Faut-il retirer de la liste des mots autorisés tous les termes à connotation raciale? Justin Morin, c'est très sérieux. Ce sont les autorités qui réglementent le jeu qui envisagent d'interdire 225 mots.
Oui, et pour l'instant, l'association nord-américaine de Scrabble ne diffuse pas la liste complète, trop insultant. Mais il y a quand même un mot qui a filtré, le mot « nigger », nègre en français. Au départ, plusieurs joueurs ont dénoncé le rôle du langage dans la propagation des clichés racistes. L'association a réagi et semble partager cette position. Une grande consultation est en cours parmi les joueurs pour que tous les points de vue s'expriment avant de trancher. Et déjà, de nombreux stars du Scrabble alertent sur une forme de censure. Leur argument, au Scrabble, on joue les mots, pas leur sens. Les enlever de la compétition ne les fera pas disparaître. Débat en cours donc. Les instances dirigeantes de l'association devraient statuer dans les semaines à venir.
Justin, est-ce qu'en France, on se pose les mêmes questions?
Alors j'ai posé la question à Florian Lévy, le président du comité de rédaction de l'ODS. L'ODS, l'officiel du Scrabble francophone, c'est un peu la bible du jeu, le dictionnaire réglementaire en compétition.
Ça fait plusieurs années maintenant que le sujet des mots racistes, il est sensible et il déchaîne les passions. Le critère, c'est vraiment que les mots qui sont unanimement qualifiés d'injures racistes et qui n'ont que ce seul sens ne sont pas admis dans l'ODS. C'est vraiment sur le plan lexicographique. Donc vraiment, on compare toutes les sources, on scrute toutes les définitions. Et quand on voit vraiment injures racistes et qu'il n'y a que ce sens-là, là, le mot est proscrit.
Et au final, dans la dernière mise à jour parue au début de l'année, les mots « shintok » et « négro » ont été bannis. Mais pas nègre, puisque ça désigne aussi la plume de l'ombre d'un écrivain.
Bon, voilà, le débat est lancé. Merci Justin Morin. Le foot, c'est l'agenda qui continue de se remplir. On connaît maintenant les affiches de la phase finale de la Ligue des Champions. Cette phase qui aura lieu à Lisbonne au mois d'août. Tirage au sort plutôt abordable sur le papier pour le PSG. En quart de finale, les Parisiens vont affronter l'Atalanta Bergame. Ce sera plus corsé en revanche pour Lyon, qui doit d'abord battre la Juventus Turin et qui ensuite fera face soit à Manchester City, soit au Real Madrid.
Merci beaucoup Sébastien. Rendez-vous à 19h30. Voilà.
Et tous les soirs à la fin du journal de 19h, ce nouveau rendez-vous de l'été, la bonne idée, Thierry Dagiral.
Oui, on tire un coup de chapeau tous les soirs à une initiative. Bonsoir Sophie Lagena.
Bonsoir.
Vous êtes épidémiologiste, docteur en santé publique à l'université de Bordeaux. Là, vous êtes en Allemagne, c'est ça?
Exactement. Je suis à Ulm.
À Ulm, précisément. Et vous faites un tour d'Europe à vélo pour sensibiliser à la maladie oculaire MDLA. C'est quoi d'abord cette maladie?
Alors, c'est une maladie qui s'appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc aussi connue sous le nom de la DMLA.
Ouais.
Donc, c'est une maladie sécitante. En fait, elle commence par l'apparition d'une tache noire au centre de la vision.
Ouais.
Cette tache noire va s'agrandir avec le temps jusqu'à provoquer la cécité chez les personnes atteintes.
D'accord.
Et il y a un facteur génétique très important qui joue un rôle assez primordial dans l'apparition de la maladie.
Donc, le but de ce tour d'Europe, c'est quoi? C'est de sensibiliser les professionnels notamment?
C'est de sensibiliser le grand public surtout, puisque les professionnels, eux, ils ont l'habitude de travailler là-dessus.
Ouais.
Moi, c'est vraiment, si j'ai un message à dire, c'est vraiment l'hérédité distribue les cartes et l'environnement joue la main.
D'accord.
S'il y a une phrase à retenir, c'est ça.
Ouais.
C'est-à-dire que, parce que si nos parents ou nos grands-parents ont eu cette maladie-là, ça veut dire que nous sommes à... que cela augmente notre risque de l'avoir.
Mmh.
Et donc moi, mon message, c'est que, ok, on hérite de nos gènes, mais par contre, on peut jouer sur notre mode de vie pour diminuer notre risque et retarder au maximum possible l'apparition de la maladie.
Soufiane, vous allez passer quoi, 6 à 8 semaines à travers l'Europe pour récolter de l'argent, c'est ça?
Ben oui, exactement. Donc là, j'ai fait une levée... de fonds pour une association qui s'appelle iCare Foundation.
Mmh.
Donc, c'est une association qui lutte contre les déficiences visuelles et la cécité évitable dans les pays à faible revenu,
ouais.
Donc, principalement en Asie et en Afrique. Et donc, ce tour d'Europe est quelque part pour sensibiliser les gens à la maladie, puis pour lever des fonds, pour aider cette association à continuer à faire du bien dans le monde, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui continuent à faire du bien dans le monde pour que...
Oh. Bravo à vous. On peut aller bien sûr vous contacter sur votre page Facebook, Soufiane Agena, A-J-A N-A. Merci, bon courage. Bravo.
Exactement.
À vous, Soufiane.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
La météo tout
merci.
De suite. Anissa, la perturbation est passée. Demain, l'anticyclone revient. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Exactement.
Le week-end sera beau.
Qui dit anticyclone, Thierry, dit beau temps, ouais. Soleil, ciel dégagé. Donc demain, c'est un week-end qui commence sous le soleil, avec tout de même en tout début de journée sur la Bretagne et la Normandie des brumes et des brouillards qui vont se dissiper très rapidement. Sur les Pyrénées et les Alpes aussi, nous aurons des nuages tout au long de la journée, avec quelques petites gouttes possibles, mais uniquement en altitude. Dans l'après-midi, le ciel se dégage partout pour laisser place au soleil. Il fera vraiment très beau. Et dans le sud, toujours le Mistral et la Tramontane qui soufflent. Les températures, 7 degrés à Beauvais, 9 à Quimper, Rennes et Lorient demain matin, 13 à Nancy et Paris, 15 degrés à Saint-Étienne et Dunkerque, 17 à Grenoble, 19 à Marseille et 22 à Perpignan. Et puis au meilleur de la journée, on va sentir une légère baisse des températures quand même sur certaines régions, avec 21 degrés à Brest et Lille, 23 au Puy-en-Velay et Belfort, 25 à Paris et La Rochelle, 27 degrés à Lyon et Limoges, 30 à Bordeaux et toujours très chaud au bord de la mer dans le sud, avec 32 degrés à Nîmes et 34 pour Toulon.
Justement, la météo des plages à 19h30.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit dans un instant avec vous, Thierry Dagiral, et avec votre interview Le Monde d'après dans un instant.
Ouais, vous savez, on imagine ce monde qui est en train de changer, un monde en vert où les écolos sont arrivés à la tête de grandes villes. Mais est-ce vraiment durable? Je pose la question au sociologue Edgar Morin dans un instant sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe avec vous, Thierry Dagiral. Et tous les soirs de l'été, on prend le temps à 19h20 de réfléchir à l'après. Vous recevez chaque soir des philosophes, des patrons, des économistes, des artistes pour tirer les leçons de cette crise sanitaire. Et vous recevez ce soir le sociologue Edgar Morin qui publie « Changeons de voix » aux éditions de Noël.
Bonsoir Edgar Morin.
Bonsoir.
Le sous-titre de votre livre, c'est « Les leçons du coronavirus ». Il y a des leçons, il y a des grands défis également, dont celui de l'écologie qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Cette vague verte au municipal, elle vous réjouit ou vous dites finalement c'est juste les grandes villes qui ont compris ce que les campagnes appliquent finalement depuis très longtemps?
Écoutez, ça me réjouit parce que je pense qu'un certain nombre de villes et de localités vont pouvoir enfin assainir et commencer à détoxiquer leur territoire et leur donner un nouvel élan. Bien entendu, ce sont des événements territoriaux dispersés, mais ça peut signifier un éveil qui puisse se transformer plus tard en un mouvement national pour une politique qui soit, où l'écologie soit au service de l'économie et l'économie au service de l'écologie, et du bien-vivre des personnes.
Justement, vous l'écrivez, Edgar Morin, un air plus pur, la nature a pu renaître grâce à cette pandémie. Certes, les émissions de CO2 ont baissé, mais pas la pollution aux particules. Finalement, avec cette pandémie mondiale, on reste loin du compte de ce qu'il faudrait faire.
Je pense que ce qui est intéressant, c'est que les conditions du confinement et de la crise ont provoqué beaucoup d'interrogations, beaucoup de prises de conscience. La situation désastreuse des hôpitaux et la façon dont les premiers temps ça a été traité ont mis en cause aussi bien la politique, disons, qu'on appelle des flux tendus libérales, de réduction des services publics pour les commercialiser, c'est-à-dire toute une politique fondamentale, et en même temps révéler des défaillances au sommet de l'État. Donc des nécessités de réformes profondes, politiques, économiques et étatiques.
Edgar Morin, c'est un livre politique. Il y a des pics à ceux qui nous gouvernent. Je vous lis. Hein. Dans les hautes sphères, la politique s'est vidée de tout contenu pour se mettre à la remorque de l'économie. À l'heure de ce nouveau gouvernement, vous dites quoi à ceux qui nous dirigent et comment on change les choses?
Et vous savez, les choses se changent parce qu'à un moment donné, il se produit un changement qualitatif au terme d'un changement quantitatif. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, il y a un seuil critique où les choses changent. Par exemple, je ne sais pas moi, prenez la grande crise des années 29, 30, etc., qui en France, toute une série d'événements ont permis la cristallisation du Front populaire, qui, malgré tous ses défauts, a apporté des lois sociales importantes. Donc moi, je crois que, si vous voulez, à un moment donné, la situation aujourd'hui est un peu plus difficile parce que les partis traditionnels sont en crise ou en miettes. Le rassemblement du président est un rassemblement très hétéroclite. Il faut quand même une pensée, une voie. C'est pour ça que j'emploie tellement ce mot de voie, un nouveau chemin. Mais je pense que pourront se créer, avec toutes les bonnes volontés venues d'un peu partout, quelque chose de nouveau, qui ne soit pas un parti de type traditionnel, qui ne soit pas un mouvement flou, mais qui soit quelque chose qui ait un minimum de conférence et qui donne espoir et enthousiasme.
L'une des pistes que vous évoquez dans votre livre, c'est de relocaliser. Ça coûte très cher, ça prend du temps, ça demande des solutions, des soutiens actifs de la part des pouvoirs publics. Comment on fait? Comment on se défait de cette mondialisation?
Les économistes sont pluriels. Il y a plusieurs points de vue. Moi, je ne vais pas vous donner des calculs. Ce qui est certain, c'est que d'énormes économies dans le budget de la santé pourront être faites quand les villes seront saines et qu'il n'y aura pas et que la nourriture sera saine après une régression de l'agriculture industrielle. Le mieux vivre lui-même diminuera. Et par ailleurs, on sait bien que dans les politiques qu'on appelle du tic keynésien, on fait des investissements, ce qu'a fait le président Roosevelt à l'époque, on fait des dépenses qui permettent de relancer l'économie, de donner du travail. Et à mon avis, c'est cette voie qu'il faut suivre. Et quant à la question de la dette, elle est tellement controversée que je ne veux pas entrer dans ce domaine.
Edgar Morin, demain vous fait peur. Vous parlez d'ère des incertitudes. Vous qui avez traversé, vous êtes né avec la grippe espagnole, vous le dites au début de votre livre, vous avez connu la crise de 1929, les deux guerres, c'était aussi le cas après 1929, c'était aussi le cas après les guerres ou après le choc pétrolier, cette incertitude qui nous attend?
Parce qu'il est certain que non seulement nous n'avons pas résolu les incertitudes propres à la nature du virus, à son danger, à sa capacité de revenir, à la capacité même d'un vaccin d'intervenir, mais en plus, il y a les incertitudes d'une crise. Est-ce qu'une économie va être dopée par les besoins des gens de l'acheter ou au contraire, est-ce qu'elle va s'effondrer? Donc, si vous voulez, et puis ensuite, il faut se rendre compte qu'on était déjà dans un monde dangereux. On voit très bien que la Chine et les États-Unis entrent dans une phase un peu aiguë de crise, que le problème du Moyen-Orient avec l'Iran n'est pas résolu, qu'il va y avoir l'annexion de la Palestine. Donc, si vous voulez, on est dans un monde dangereux, incertain, et l'incertitude continue. Et il faut prendre, à ce moment-là, être toujours vigilant.
Rapidement, Edgar Morin, c'est un livre politique, je le disais tout à l'heure. C'est presque un programme politique. Vous parlez participation citoyenne, réforme de l'entreprise. Dans 2 ans, vous aurez 101 ans. Qui pourrait incarner votre programme, votre voix, V-O-I-E?
Pour le moment, la personne n'est pas sortie, mais vous savez...
Elle n'existe pas. Elle n'est pas dans nos radars.
Macron n'existait pas. Il n'était même pas dans la politique et en quelques mois, il est devenu charismatique. Bon, donc ça veut dire que l'inattendu arrive. Moi, je pense qu'on va voir, parmi, il y a des prétendants, quel est celui qui va réussir à convaincre dans cette voie que j'estime juste la population. Je ne sais pas, moi, ça pourrait être Anne Hidalgo. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, je ne sais pas.
Mais le programme, en tout cas, et votre livre est entre leurs mains. Macron, Emmanuel Macron a dit « changer de chemin ». Vous, vous dites « changeons de voie ».
Oui, c'est très bien. Je suis très content de ce mot. Maintenant, le mot doit être suivi par les paroles, par des actions. Il est évident que s'il suit les voies que je préconise, je serai très content.
Changeons de voie chez De Noël, c'est signé Edgar Morin. Un grand merci à vous, merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1. À suivre Thierry Dagiral.
Restez avec nous, 19h30, tute d'été. Et puis à 19h40, 12 France, on part en balade. Prenez un papier, un stylo, on part à Annecy ce soir. Ne bougez pas, vous êtes sur Europe 1, on revient tout de suite.
Europe 1. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Thierry Dagiral.
Avec le rappel des titres de l'actualité, Sébastien Krebs.
Et un accord au Ségur de la Santé. Trois syndicats vont signer, CFDT, FO et UNSA. Ils représentent à E3 la majorité du secteur hospitalier. L'accord prévoit 180 euros d'augmentation pour les soignants. Six autres syndicats, dont la CGT, appellent eux à manifester le 14 juillet. Le chauffeur de bus agressé à Bayonne dimanche dernier est décédé, annonce sa famille. Philippe Monguillot, 59 ans, a été roué de coups par des passagers à qui il demandait d'acheter un ticket. Demain, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera sur place. À retenir aussi ce soir, ce week-end chargé sur les routes. La journée de demain est classée rouge dans tout le pays, dans le sens des départs. La colère du monde chrétien, la Turquie d'Erdogan autorise les prières musulmanes au sein de la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul. Première étape à sa transformation en mosquée. Et puis Donald Trump annule pour la première fois un meeting de campagne. Il le reporte en tout cas. Un meeting prévu dans le New Hampshire, officiellement à cause d'une tempête. Mais l'événement suscitait aussi des inquiétudes quant au risque de contamination au moment où l'épidémie continue de progresser aux États-Unis.
Merci beaucoup Sébastien Crête pour tous ces journaux du soir. Retour pour
avec
vous
plaisir.
En août sur la matinale et à la rentrée sur le 5h, 7h sur Europe 1 bien sûr. Partez vite vous reposer
maintenant.
Bel été à vous. Bel été, beau soleil. La météo des plages justement, Alissa.
Alors,
on prend quoi, la direction du nord?
Exactement, le nord et la Manche. Allez. Avec à Douarnenez en Bretagne, dans le Finistère, quelques petits passages nuageux demain après-midi, mais nous aurons 25 degrés sur la plage, c'est agréable. L'eau est toujours un peu fraîche avec 18 degrés seulement. Sur la magnifique île de Bréa, grand soleil demain avec 21 degrés sur la plage et seulement 16 degrés dans l'eau. Et
oui,
plus au nord, à Boulogne-sur-Mer, du soleil voilé par moments dans l'après-midi, 18 degrés sur la plage, 17 dans l'eau. Sur la côte atlantique, dans le Pays Basque, à Guétari, nous aurons 24 degrés sur la plage. En plein soleil, on peut monter jusqu'à 28 degrés. 22 dans l'eau, sous un beau soleil. Et puis à Pornichet, en Loire-Atlantique, 25 sous le soleil, 19 dans l'eau. La mer est belle, profitez-en, c'est un beau week-end qui s'annonce.
Merci Anissa.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et place à la culture. Dans un instant, Douce France, nous allons partir en balade à travers la France. Mais avant cela, eh bien, de la musique.
Et bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Dans un instant, la culture avec vous, Diane Chénouda. Une bonne BD pour ce week-end avec Mathieu Charrier. Mais d'abord, votre tube d'été, Angèle Châtelier.
Vous avez forcément déjà dansé là-dessus.
Bien sûr.
Scorpion qui en aura sûrement aidé des couples à se former, peut-être vous avez flirté sur cette chanson. Vous vous souvenez peut-être donc qu'à l'époque, le mur entre les deux Allemagnes est érigé depuis plus de 20 ans. Alors si Still Loving You est une chanson à slow, oui, qui n'a la reconquête d'une relation déchue, deux strophes sont équivoques. Love, only love can break down the wall someday. Seul l'amour peut faire un jour tomber le mur et puis ta fierté a construit un mur si grand.
Faut donner l'année, Angèle, 1984. C'est
voilà,
bien ça, hein?
1984. Alors, Scorpion est au cœur de l'histoire du pays. Ses membres sont originaires d'Hanovre, une ville du nord de l'Allemagne. D'ailleurs, 6 ans après Still Loving You, il publie une Wind of Change, vent du changement, sacré depuis bande originale de la chute du mur de Berlin. Cette chanson, Thierry, est la chanson la plus vendue de tous les temps en Allemagne.
Ouais.
Véritablement un hymne de la réunification. Lorsqu'elle est sortie en 91, ils ont été reçus au Kremlin à Moscou par Mikhail Gorbatchev. Il leur a remis une plaque sur laquelle étaient inscrites les paroles de leur chanson.
Voilà, avec Angèle, c'est bien sûr les coulisses des tubes de nos étés. Qu'est-ce qui a été, Angèle, le déclic pour Scorpion pour écrire cette chanson? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Et bah, c'est un festival de rock, le Moscou Music Peace Festival. Le chanteur Klaus Mann raconte une image qui l'a marqué. L'armée rouge faisait la sécurité, il tournait donc le dos à la scène. Et quand le groupe est arrivé, ils se sont retournés, ont lancé leurs casquettes en l'air. Et c'est ce qui a donné un vent de liberté au groupe, l'image de la liberté en tout cas, qui avait été bafouée pendant si longtemps. Mais lorsque le mur est tombé, le groupe était à Paris. Ils l'ont alors suivi en direct à la télévision.
Still loving you.
Loving You 1984 Scorpion. Merci beaucoup, Angèle Châtelier.
Et tout l'été, Mathieu Charrier, vous nous conseillez, vous, de lire ou relire les meilleures bandes dessinées sorties cette année. Aujourd'hui, pour ce week-end, le retour d'un duo quelque peu oublié.
Oui, si je vous dis Tif et Tondu, créé par Fernand Diner dans les pages du journal Le Spirou. C'était en 1938, vous en rappelez, Thierry, vous étiez né. On attendait depuis plus de 20 ans une nouvelle aventure et c'est le célèbre Blutch qui la dessine sur un scénario de son frère. Alors, ils en font deux romanciers enquêteurs dans Tif et Tondu qui viennent de faire arrêter l'antiquaire des stars. Il avait la fâcheuse tendance d'organiser un trafic d'œuvres d'art. Ils racontent leur enquête et cette arrestation dans leur tout dernier roman. Et alors qu'ils commencent une tournée de dédicaces pour dédicacer ce roman, donc la comtesse Kiki, leur amie, est enlevée, début évidemment de leur nouvelle enquête, sous le trait donc de Blutch.
Pour moi, ils sont toujours là, sur la table de chevet, et c'est vrai que moi je les relis régulièrement. Je sais qu'ils ont été taxés de ringardistes, ce sont des personnages qui datent de 1938. Ils sont très schématiques, très enfantins. Pour moi, ce schématisme, paradoxalement, ça m'a plutôt ouvert la porte vers, je vais dire un gros mot, vers une exploitation possible. Les grandes BD qui m'ont influencé bizarrement pour dessiner ce Tif et Tondu sont Les Pieds Nickelés de Pélos, Tardi, Nestor Burma notamment, et Lucky Luke.
Voilà. Que de belles références. Et l'histoire dans l'histoire, ce qui est assez drôle, c'est que je vous disais donc que le roman qu'ont écrit Tif et Tondu et qu'ils dédicacent au début de leur histoire, eh bien les deux auteurs de la BD l'ont également écrit. C'est-à-dire qu'à côté de la bande dessinée, vous avez un roman qui a été publié, qui lui aussi s'appelle L'Antiquaire Sauvage. C'est une mise en abîme assez géniale. Donc plongez-vous dans cette BD, Tif et Tondu, le sous-titre Mais où est Kiki ? C'est publié chez Dupuis.
Merci Mathieu Charrier. Diane Chenouda, cette fois, ça se passe partout en France. Ensemble, enchantons l'été. C'est une initiative, une belle initiative de la Fondation Bettencourt.
Pour nous faire chanter tout l'été, figurez-vous, on parle de chant vocal. Hein. On entend là une reprise de Leonard Cohen. Plusieurs chœurs professionnels, 5 chœurs en tout, 180 chanteurs, vont chanter dans le Grand Est, dans Lyon, à Bordeaux. Et puis fin août, ce sera un peu partout en France. 25 concerts en tout l'été. Ces chœurs vont chanter de tout, hein, que ce soit les classiques de la chanson, Charles Trenet, Brel. Il y aura même un medley avec des reprises de Mylène Farmer. Ou alors des musiques populaires, médiévales, ou encore du classique, un Bach, Gershwin, du Ravel. Vous voyez, c'est très très varié, très éclectique, pour attirer le plus grand nombre.
Et Diane, ce qui est intéressant, c'est que le public pourra chanter lui aussi. Hein.
Oui, c'est ça l'idée, absolument. Bien souvent, les paroles seront distribuées. Hein. Le public pourra en effet chanter en chœur avec ses chorales. Il pourra même répéter un peu avant. Donc, il y aura ses concerts et puis il y aura aussi des surgissements. Alors, qu'est-ce qu'un surgissement ? Eh bien, ça m'a beaucoup plu, ça. Ça veut dire que n'importe où, dans les jardins d'un château, par exemple, eh bien, un chœur peut surgir à tout moment, comme ça, derrière un bosquet, et chanter, et faire chanter le public, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment extra, le coup. Vraiment, l'effet de surprise, évidemment, ajoute au plaisir de chanter. Cela se fera, évidemment, beaucoup en plein air, hein, mais aussi dans des lieux plus fermés, comme l'ancienne base sous-marine à Bordeaux, par exemple. Donc ça s'appelle « Ensemble, enchantons l'été ». C'est gratuit là encore, ça dure tout l'été, un peu partout en France, jusqu'au 4 octobre.
Merci beaucoup, merci Diane Chenouda, bon week-end.
Avec plaisir, oui, merci.
Europe 1. À suivre Thierry Dagiral.
Nouveau rendez-vous hein, depuis lundi dans ce 18-20 12 France. Avec Anissa, on vous emmène en vadrouille. Tiens, si vous êtes en voiture, vous partez peut-être vers la Haute-Savoie. Eh bien, on va vous donner plein d'idées autour d'Annecy. Départ immédiat dans 2 minutes sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand jour 9 du soir en balade, c'est le programme tout l'été jusqu'à 20h, Douce France, avec des idées sorties, des visites, mais aussi des découvertes de produits régionaux. Et ce soir, on est dans la région d'Annecy, Thierry Dagiral.
Ça vous exactement, Anissa. Je vous emmène d'abord à 12 km, 20 minutes en voiture, d'Annecy au château de Montrottier. Bonsoir Arnaud Delers.
Oui, bonsoir.
Vous êtes historien, vous êtes directeur du château de Montrottier. La particularité de ce château, dites-nous.
Ah, la particularité du château de Montrottier, c'est d'abriter des collections absolument sublimes qui sont le fruit de collections de plusieurs générations de propriétaires du château et qui ont cette particularité d'être conservées comme au jour de la mort du dernier propriétaire en 1916.
Mmh. Il y a une ambiance particulière dans ce château ?
Ah oui, c'est un château qui a une âme, justement, à la fois par la présence de ses collections et puis par son histoire qui est étroitement associée à celle de la Savoie.
Arnaud Delers, pourquoi il y a énormément de châteaux dans le coin tout autour d'Annecy ?
Ah, c'est parce que l'histoire de la Savoie est assez singulière. On oublie un peu souvent que la Savoie ne devint française qu'en 1860. Mmh. Et c'est-à-dire après l'Algérie, enfin au 19e siècle, après l'Algérie ou même après la Nouvelle-Calédonie. Et la Savoie était donc un état indépendant avec des souverains qui ne s'appelaient pas Louis ou François, mais qui s'appelaient Humbert ou Amédée. Et cette Savoie était au carrefour de l'Europe.
D'accord.
Alors c'est un peu impensif hein, de dire ça, on est un peu tous au carrefour de quelque chose. Et pour la Savoie du Moyen-Âge, c'est une réalité, c'est un état au carrefour de l'Europe.
Rapidement.
Et la présence de ces châteaux est liée, à mon sens, à cette position.
Rapidement, je voudrais qu'on évoque le château de Menton, c'est ça ? C'est le château qui domine le lac d'Annecy, hein ?
Oui, tout à fait. Le château de Menton, qui est un château habité par la même famille, rendez-vous compte, depuis près de 23 générations. Alors, ça nous plonge au plus profond du Moyen-Âge. Alors, inutile de vous dire que ça donne une âme à ce château absolument magnifique.
J'imagine.
Qui aurait inspiré, dit-on, Walt Disney lorsqu'il dessina la Belle au bois dormant.
Merci beaucoup Arnaud Delers, historien, directeur du château de Montretier, donc à visiter si vous apprêtez à venir dans ce secteur. Alissa.
Si vous allez en vacances du côté d'Annecy, sachez que depuis le 4 juillet, une trentaine d'œuvres sont installées dans toute la ville d'Annecy, ce qui vous permettra de découvrir les œuvres et de redécouvrir ou découvrir la ville. Ça s'appelle Annecy Paysage, ça dure tout l'été jusqu'au 27 septembre.
Alors on va maintenant, bien sûr, sur le fameux lac d'Annecy, retrouver Éric Mercier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes moniteur de plongée, c'est ça ?
Oui, moniteur de plongée. Et,
donc on plonge dans le lac d'Annecy.
Oui, oui, depuis longtemps déjà. Hein.
Donc, il y a combien de profondeur ?
Alors, le lac d'Annecy a un trou à 80 mètres, disons la plupart du temps, il est dans les 50 mètres au milieu du lac.
C'est un bon endroit pour s'initier à la plongée, par exemple ?
Oui, c'était une très bonne école. Hein. C'est une école sympathique, un petit peu plus difficile qu'en mer parce qu'il y a un petit peu moins de visibilité.
D'accord.
Un petit peu plus difficile qu'en mer parce qu'une eau un petit peu plus froide dès qu'on passe en dessous de la thermocline. C'est-à-dire qu'il y a une thermocline vers de 10-12 mètres où l'eau baisse de 8 degrés.
D'accord. Qu'est-ce que l'on voit sous l'eau ? Racontez-nous un peu. Il y a la flore, j'imagine.
Alors, il y a beaucoup de flore, beaucoup de faune. Hein. Il y a des algues qui remontent jusqu'à la surface et qui partent de 7-8 mètres de profondeur. Donc, ça fait des très jolis paysages avec la lumière. Et on y voit beaucoup de faune. On peut rencontrer des brochets, des carpes, des perches, des écrevisses aussi. Il y a beaucoup de faune et beaucoup de flore. Hein. Le lac d'Annecy est très bien conservé et très propre.
Éric, vous proposez des plongées en scaphandrier, c'est ça ? C'est quoi la spécificité ?
Alors, nous on propose des plongées en scaphandre. Hein. Je dirais, les scaphandriers, c'est un peu une autre époque. Hein. On n'a pas les pieds plombés. Hein. On est simplement un peu plus homme-grenouille, je dirais.
Oui, c'est ça.
Hein. Donc, voilà. Donc, voilà, on est en combinaison, en néoprène ou en combinaison étanche quand on va plus profond. Et puis, on a une bouteille sur le dos avec un gilet qui tient la bouteille, et des détendeurs pour détendre l'air, voilà. Et on se retrouve en apesanteur dans l'eau.
Parfait. Écoutez, c'est à faire du coup lorsque l'on est autour du lac d'Annecy. Merci.
Lac d'Annecy, oui.
Merci, un grand merci à vous, Éric Mercier.
De rien, au plaisir.
Les tarifs, Anissa.
Eh bien, le baptême de plongée vous coûte 60 euros. C'est une activité qui va durer 1h30. Vous passerez 20 minutes sous l'eau. Et pour les plus expérimentés, c'est entre 35 et 70 euros.
Voilà, on dort où ce soir ? Une bonne idée. Avec vous, Philippe Viguier des Places du Figaro Magazine, comme tous les soirs. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Thierry. Alors, nous terminons cette semaine dans un face-à-face impressionnant avec le lac du Bourget.
Ouais.
Et une nouvelle adresse dont le nom dit tout, l'incomparable, excusez du peu. Alors, c'est un ancien manoir transformé en hôtel 5 étoiles. Alors, il y avait sûrement des travaux à faire parce que ça a duré 4 ans, mais le résultat est top. Piscine, tennis et des chambres, une vue extraordinaire car l'hôtel est juché sur la colline de Tresserve. Ça ne vous dit rien, mais c'est là où Lamartine a écrit son plus célèbre poème, Le Lac.
Le prix, Philippe.
Alors, l'incomparable a un prix à partir de 325 euros à peu près.
Merci beaucoup Philippe, bien sûr on se donne rendez-vous lundi. On reste à Annecy, dans le secteur d'Annecy, avec dans un instant Des Saveurs et Marion Sauveur.
Dans votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h, nous sommes à Annecy en Haute-Savoie et on s'arrête à table, le temps de déguster une spécialité du terroir français, Thierry.
Avec Marion Sauveur, bonsoir Marion.
Bonsoir.
Attendez, parce que là je suis comme un fou.
C'est délicieux.
C'est mon fruit préféré, vous êtes venu charger, les bras chargés de framboises et j'adore ça. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il n'y en a pas que des rouges.
Eh bien oui, il y en a aussi des blanches, alors qu'il y a une couleur un peu jaune doré. Hein. Elles sont pratiquement dépourvues de pigments colorés. Elles ont un goût assez fin, moins acidulé. Alors il y a aussi des noires qui existent, il n'y en a pas ici, mais qui ressemblent à des mûres et qui ont goût de fruits rouges. Et puis on a aussi plein de variétés différentes dans les rouges. Alors des grains plus ou moins charnus, des couleurs différentes. Vous connaissez d'ailleurs peut-être la Meeker qui est la plus produite en France, ou sinon l'Héritage qui est très parfumé.
Qu'est-ce qu'elles sont bonnes, dis donc. Alors là, vous êtes venu avec un panier de l'Interfel.
C'est une
association.
C'est l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais et qui promouvoit justement.
On les remercie
qui
beaucoup.
Promeut ces fruits qui sont magnifiques. Et vous savez que le framboisier est une ronce à l'origine, en fait. On le trouvait dans les sous-bois et ça, il poussait d'abord dans les montagnes de l'Europe de l'Ouest. C'est là où on les a trouvés en premier. On s'en servait ensuite comme ornement dans les jardins et on s'est mis à les manger à partir seulement du 19e siècle et ça fait seulement 70 ans qu'on la cultive pour la vendre. Et l'un des villages qui est devenu célèbre pour sa production de framboises est justement en Haute-Savoie, c'est Machilly. C'était dans les années 50, c'était devenu la capitale de la framboise. 1900 tonnes de framboises étaient fabriquées à l'année, c'était la moitié de la production française quand même dans un tout petit village. Aujourd'hui, il y a 1000 habitants et on s'y rend justement en partant d'Annecy. Alors on prend la 40 direction le lac Léman, il y en a pour 45 minutes à peu près, et on arrive à Machilly. Je vous donne toutes les routes, Thierry.
Non, mais c'est important. On prend note, c'est très bien.
Et on arrive donc à Machilly et on retrouve Sandra Lyonnais, qui est donc la dernière productrice de framboises du village.
Bonsoir, Sandra Lyonnais.
Bonsoir.
Vous avez repris, c'est ça, l'exploitation de votre belle famille. Vous n'étiez pas là dans les années 50. Pourquoi ça s'est développé particulièrement dans ce village ?
Alors, je sais que il y avait la coopérative de fruits rouges, donc c'est pour ça qu'il y avait énormément de production ici, parce que tout était transformé sur place. Dans les années 50, ça a été vraiment le gros rush. Et après, il y a eu des problèmes de maladie, et puis les gens sont allés travailler à l'extérieur, et ça s'est arrêté petit à petit.
Ça veut dire que vous êtes la seule productrice aujourd'hui dans ce secteur, c'est pas trop compliqué ?
Alors, dans le secteur, non, mais sur Machilly, oui.
Sur Machilly, oui. Ça fait quoi, 13 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et tout se fait à la main, c'est ça ? On récolte la framboise à la main ?
Tout à la main, oui. C'est une grosse main-d'œuvre de récolte.
J'imagine.
Oui,
oui. Comment on repère que les framboises sont bien mûres et...
Alors, en fait, la framboise, quand vous la cueillez, en fait, elle doit venir toute seule.
D'accord.
Si vous devez,
pas tirer dessus, quoi.
Voilà, si vous tirez, c'est qu'elle n'est pas mûre. Voilà, exactement.
D'accord.
C'est très très fragile comme fruit.
Vous cultivez donc des framboises. Quelle variété précisément ?
Alors, j'ai de l'Héritage dont vous avez parlé tout à l'heure, en variété qui est très très parfumée. J'ai de la Malahate, de la Vérula, de la Viamette et la Meeker, en fait, on a arrêté.
D'accord. Nous, consommateurs, comment on choisit des framboises ? On doit regarder quoi précisément ?
Alors, vous regardez qu'elles soient vraiment belles rouges et tout. Si elles sont trop noires, alors effectivement, il y a des framboises noires, mais c'est exceptionnel. Il faut qu'elles soient vraiment luisantes. Voilà.
D'accord.
Il faut qu'elles soient, au premier coup d'œil, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper.
Et puis, il faut aussi parler à votre commerçant. Quand vous allez faire le marché, l'idéal, c'est de trouver des producteurs sur place et de savoir comment est-ce qu'ils cultivent ces framboises. Les circuits courts, c'est ce qu'il y a de plus important.
Comment on conserve les framboises ?
Alors, le mieux, c'est de les conserver le moins possible.
Ouais.
Parce que ça reste un fruit très fragile. Il faut les manger vite, exactement.
Et surtout, c'est ça, il ne faut pas les mettre au réfrigérateur. Ça, c'est important.
Alors, moi, je ne le fais pas parce que je peux me le permettre. Après, il y a les très gros producteurs, c'est bien obligé sûr. Qu'ils mettent en chambre froide.
Ouais. Parfait.
Pour l'expédition.
Vous faites aussi du cassis et des myrtilles, c'est ça?
Cassis, myrtilles, là je suis en plein dans les myrtilles, oui. Ouais. Cassis, groseille, myrtilles, elle est fraise aussi.
Parfait. Écoutez, merci Sandra Lyonnais, hein, vous vendez des framboises uniquement donc en vente directe. On peut venir vous acheter directement des framboises. C'est à la ferme Lyonnais, donc à Machy. Marion, on reprend la route. Ça. Merci à vous Sandra.
Oui. Et donc, on ne va pas très loin, puisqu'on reste à Machilly. C'est un quart d'heure à pied de chez Sandra, par la départementale 101, jusqu'au restaurant Refuge des Gourmets. On est route des framboises, hein, ça ne s'invente pas.
C'est vrai.
Et c'est là, oui.
C'est dingue.
Au numéro 90, je crois. Et c'est là que nous attend le chef Hubert Chanov.
Bonsoir, Hubert Chanov.
Bonsoir.
Vous aimez, vous, cuisiner, bien sûr, la framboise?
Oui.
vous cuisinez celle de Sandra Lyonnais?
Oui.
Et vous proposez trois menus,
c'est
trois.
C'est
une affaire d'amitié.
D'amitié, de famille, voilà, et d'échange. Ouais.
Au menu, vous proposez trois plats avec des framboises, lesquels? Allez, faites-nous un peu saliver là.
Voilà, donc là, on va commencer sur la première entrée. On va proposer une truite qui est mi-cuite, servie avec les premières tomates cerises.
D'accord.
Donc, qui commence à avoir un petit peu de sucre. Là, on a eu des belles températures.
Oui.
Donc, on commence à trouver un petit peu de sucre. Et en fait, je vais utiliser la framboise pour en retirer l'acidité,
ouais.
pour terminer l'assaisonnement de notre poisson uniquement avec de la framboise, pas
d'accord.
de citron.
D'accord.
Voilà. C'est la framboise qui va venir assaisonner cette truite.
D'accord.
Après, on va retrouver un velouté, plus tard dans le menu, on va retrouver un velouté de petits pois avec un sorbet poivron et framboise.
Ah oui.
Qui se marie très bien.
Ouais.
Donc le poivron confit, pareil, on va aller chercher la sucrosité du poivron en le faisant confire longtemps au four.
Ouais.
Et l'associer avec la framboise, c'est quelque chose qui marche très bien.
Et ça, vous le présentez comme un trou normand, hein, c'est ça?
Voilà. C'est un petit consommé qu'on va retrouver juste avant le plat qui va venir nettoyer les papilles. Et c'est vrai que la framboise a cette acidité justement qui permet de rincer et de nettoyer les papilles autant sur du sucré que sur du salé. Donc c'est vrai que c'est très intéressant.
C'est ça. Hubert Chanov, justement, cette framboise, elle s'accorde avec tout?
Tout, non. Après, c'est vrai que sur de la viande rouge avec du bœuf, du pigeon,
ouais.
On fait beaucoup de pigeon aux cerises, du canard aux cerises. Voilà, ça, la framboise, c'est exactement pareil. Voilà, la viande rouge notamment. Et après, sur les poissons du lac, parce que je suis juste à côté, donc je vais parler de mes poissons.
D'accord.
La ferra, le brochet, ouais. L'omble chevalier, les perches vont très bien aussi avec la framboise. Voilà, c'est...
Parfait. Bon, écoutez, grand merci à vous, Hubert Chanov. On peut déguster vos plats à base de framboises donc tout l'été au Relais des Gourmets, route des framboises.
Refuge des Gourmets.
Pardonnez-moi ?
Merci. Le Refuge des Gourmets.
Refuge des Gourmets. Donc, route des framboises, c'est à Machy, le menu, Marion.
Il est à 65 euros, à partir de 65 euros, le menu en 6 temps.
D'accord. Merci beaucoup, Marion Sauveur. On vous retrouve demain matin, bien sûr, aux côtés de Laurent Mariotte. Et lundi, dans la matinale de Pierre de Villeneau.
Et oui, je vous parlerai d'un fromage, le Picodon.
Délicieux. C'est l'Ardèche, ça?
Et oui, et la Drôme également. Et on en parlera, du coup, lundi soir.
Exactement. Super. Rendez-vous lundi. Merci beaucoup, Marion.
Europe 1.
Dans un instant, festival idéal d'Émilie Mazoyer, c'est tout l'été sur Europe 1 avec des concerts, des lives, que du bon ce soir, Olivia Ruiz et Monsieur Stevie Wonder. Stevie Wonder donc, chez Émilie en live ce soir. Merci beaucoup Anissa.
Merci Thierry, à lundi.
On se donne rendez-vous lundi, bien sûr. C'est Sébastien Guillot qui vous réveillera demain matin. Marion Calais pour votre 18h20 week-end. On se retrouve lundi avec beaucoup de plaisir sur Europe 1 pour écouter ensemble Le Monde Changé. À lundi.
Europe 1.